Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Bernabé Cabré.
Au sommet de cette édition, 199, c'est le numéro vert à composer pour signaler tout acte de nature terroriste. Expédition punitive à Dori, la mairie confirme des morts et des blessés impliquant des militaires. En vue d'un apaisement, le président de la délégation spéciale a rencontré hier jeudi les forces vives de la ville et des responsables militaires. Liberté de la presse au Burkina, l'ONU se dit préoccupée par les restrictions imposées aux médias et à l'espace civique. Et la rédaction reçoit aujourd'hui comme invité le journaliste et analyste politique sénégalais Mamcor Nkom. Avec lui, nous parlons de l'actualité politique au Sénégal, un contexte anxiogène, dit notre invité qui estime qu'il appartient au président Macky Sall de trancher s'il est candidat ou non à un troisième mandat en 2024. Ce sont là les grands axes de cette édition. Bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information « Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso ». Vous pouvez désormais alerter directement les forces de défense et de sécurité pour indiquer la position des terroristes. L'innovation a été annoncée hier par la direction de communication de la présidence du Faso. 199, c'est le numéro à retenir. D'autres lignes sont également ouvertes pour recevoir les appels, mais aussi des fichiers sur les applications de messagerie cryptée. Le nouveau Centre national d'appel a été présenté hier au journaliste. Charles Da nous en parle.
Il est désormais possible d'alerter les forces de sécurité et de défense sur la position des terroristes à travers une ligne téléphonique mise en place par le Centre national d'appel SENA, a fait savoir ce jeudi Djourmité Nestor Noufé, directeur de la communication et des relations publiques de la présidence du Faso. Pour l'opérationnalisation du Centre national d'appel SENA, des numéros verts ont été mis à la disposition des populations qui pourront informer le centre des mouvements des groupes armés terroristes en appelant au 199 ou en joignant le centre par WhatsApp avec ses numéros 226 71 20 33 et 33 ou encore au 226 68 24 44 et 44. Ces numéros pourront également ouvrir une porte pour l'insertion sociale pour les terroristes qui désirent déposer les armes. Les cas de malversation des ressources publiques et de malgouvernance sont aussi appelés à être signalés à travers ces numéros verts. Dans cette nouvelle dynamique d'alerte téléphonique, les activistes ne sont pas oubliés. Ils sont donc interpellés à privilégier le SENA pour les alertes sécuritaires, pour ne pas tomber sous le coup de la loi, a été ferme le directeur de la communication et des relations publiques de la présidence du Faso.
Changement à l'état-major de l'armée de terre, le colonel Adam Néré, en poste depuis février 2022, passe le commandement au colonel Théophile Nikiema, nommé le 31 mars dernier par le chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré. Le 8e patron de l'armée de terre dit placer son mandat sous le signe de la continuité dans l'action de reconquête du territoire national à travers l'encadrement des forces combattantes très sollicitées sur le théâtre des opérations. Le colonel Théophile Nikiema est au micro de l'Iradan Philippe Ada.
D'abord, je voudrais faire remarquer que l'armée de terre est l'unité qui est au cœur de l'engagement opérationnel des forces armées. Donc à ce titre, nous avons une lourde mission qui nous amène à aller sur le terrain d'opération et aller au-delà, au-devant de tout ce qui nous attend sur le terrain. Donc nous voulons placer ce mandat en suivant ce que le chef d'état-major général des armées a dit hier, savoir renforcer un certain nombre de valeurs, savoir la discipline, la cohésion, l'esprit de sacrifice et le patriotisme. Notre apport sera de renforcer les acquis, mais beaucoup plus de contribuer avec force à la dynamique actuelle de victoire.
Des militaires impliqués dans des actes d'atteinte à la liberté et à la vie à Dori. L'information donnée par Omega Media a été confirmée hier par le préfet de la ville. président de la délégation spéciale. Il s'agit d'une expédition punitive menée par des soldats après l'assassinat lundi d'un militaire dans un quartier de la ville. Jeudi, dans un communiqué, le président de la délégation spéciale a annoncé avoir organisé une rencontre avec les forces vives de la ville et les forces de défense et de sécurité. Après cette heure, on fait le point avec Moumouni et Tamboura.
Selon Abrahamane Mandé, dans les nuits de mardi et mercredi, respectivement les 4 et 5 avril 2023, des actes d'atteinte à la liberté et à la vie ont été constatés dans le quartier Petit Paris de Dori, ainsi que dans d'autres secteurs de la ville. Malheureusement, poursuit le communiqué, certains militaires seraient impliqués dans ces actes regrettables en procédant à des tirs à l'arme automatique et à la bassonnant des paisibles citoyens riverains et passants, occasionnant des pertes en vie et des blessés au sein de la population. Le président de la délégation spéciale, Abrahamane Mandé, explique dans son communiqué qu'afin d'apaiser le climat et de préserver la cohésion sociale, il a tenu une rencontre ce jeudi avec les forces vives et les responsables d'organisation de la société civile de la commune, ainsi que les forces de défense et de sécurité. Cette occasion, indique M. Bandé, les premiers responsables des forces de défense et de sécurité ont tenu à présenter leurs excuses à toute la population pour les actes regrettables, rassurer la population que de tels actes ne vont plus se produire, s'engager à contribuer au sein des blessés et présenter leurs condoléances aux familles des disparus, sanctionner les soldats impliqués. Au moins 7 civils ont été tués à Dori dans ces événements après la mort d'un soldat, ont confié plusieurs sources à Omega. Depuis mardi donc, des soldats du 11e régiment d'infanterie commando, en signe de représailles, ont bouclé la ville et ont fait une descente musclée dans plusieurs quartiers de Dori.
Moumouni et Tamboura, liberté d'expression au Burkina Faso, l'ONU dénonce de nouvelles restrictions. Le haut commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, s'est dit profondément préoccupé par les restrictions imposées aux médias et à l'espace civil dans le pays. En cette période de transition, la protection des voix indépendantes est plus nécessaire que jamais afin de permettre un contrôle citoyen, de favoriser la prise de responsabilité et de laisser au peuple burkinabé l'espace nécessaire pour construire ensemble une société résiliente, stable et inclusive, a déclaré le haut commissaire dans un communiqué de presse. Il s'est exprimé ce jeudi après la suspension de RFI et France 24 et l'expulsion de deux journalistes français sur les allégations d'exécution extrajudiciaire dans une caserne au Burkina. L'ONU appelle le gouvernement à mener rapidement des enquêtes approfondies, impartiales et transparentes afin d'établir les faits. Ce sont là les propos de Volker Türk, le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. Le 6 avril 2022 était prononcé le verdict du dossier Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Un an déjà, et à l'occasion de ce premier anniversaire, le Comité international mémorial Thomas Sankara a tenu un panel pour faire le bilan de la procédure. C'était hier jeudi sur le site du mémorial. Compte rendu, Jean-Baptiste Ramdé et Solomon Nikiema.
25 ans de procédure judiciaire, des obstacles et des péripéties ont fini par porter ses fruits. Pour le panéliste Maître Benewende Sankara, tout cela était possible grâce à la veille citoyenne et la persévérance des familles des victimes. L'affaire Thomas Sankara s'est heurtée à un pouvoir politique qui s'est opposé à son aboutissement, rappelle l'avocat de la famille Sankara. Pour lui, s'il y a des leçons à tirer, c'est de faire confiance en la justice et de lui accorder toute son indépendance. Maître Benewende Sankara.
La question de l'indépendance de la justice pour rendre un procès équitable a toujours été à l'ordre du jour. Dans le cas de l'affaire Thomas Sankara, vous aurez remarqué que sous le régime de M. Blaise Compaoré, comme je le dis, à qui profitait le crime, eh bien, il était difficile que ce régime-là puisse laisser les magistrats, dans leur indépendance, dire le droit. Fort heureusement, avec l'insurrection, le régime ayant changé, on a vu que le dossier a évolué très rapidement. Sous la transition, le tribunal militaire a travaillé en toute indépendance, en toute liberté, et le verdict qui a été rendu, en tout cas de notre point de vue en tant qu'avocat et praticien, est le fruit d'un procès équitable.
Le verdict est connu depuis un an, il est coupable aussi. Parmi eux, Yassine Kafando, chef du commando criminel du 15 octobre 1987, et Blaise Compaoré, commanditaire condamné par contumace. L'année dernière, l'ancien président est revenu au Burkina sans être inquiété. La preuve, selon l'avocat, que les pouvoirs politiques ont toujours influencé les décisions judiciaires. Maître Benewende Sankara, avocat de la famille Sankara.
Quand ils vont venir au Burkina, théoriquement, on doit pouvoir les écrouer avant qu'ils ne puissent se défendre. C'est exactement ce que veut dire être condamné par défaut. Bon, maintenant, nous avons vu le cas de M. Blaise Compaoré qui a violé sous le président Damiba justement cette condamnation et le mandat d'arrêt international qui pèse sur lui. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais que ce sont les politiques, malheureusement, qui influent négativement dans le pouvoir judiciaire.
Le 6 avril 2022, un autre pan de l'histoire de la procédure judiciaire Thomas Sankara et ses 12 compagnons s'achevait. Le deuxième panéliste, Joseph Saba, représentant de la famille des victimes, a axé sa communication sur l'implication des parents des victimes dans l'aboutissement de cette procédure judiciaire.
Nous sommes en plein mois de jeûne et chaque Ramadan, c'est un mini écosystème économique qui se développe au Burkina Faso. Galettes, bouillies de mil ou de tout autre céréale durant un mois. Dames et hommes tentent de tirer leur épingle du jeu. Les abois des voix sont animés, surtout à l'heure de la rupture du jeûne. Le début peut-être d'une entreprise en devenir pour certaines femmes. On suit ce reportage de Fawzia Zongo.
Madame.
Bouillie, galette, jus de mil encore appelé zomkom inondent la place. Il est 17h, il est 22, s'empresse pour être à l'heure du rendez-vous, la rupture du jeûne. Bien qu'elle se frotte les mains, le marché n'est pas à leur convenance.
Moi je vends zomkom, bissap, j'ai commencé depuis l'année passée, mais en ce moment-là, je continue de vendre encore. Même si le mois de carême là passe, moi je continue de vendre, mais à ce moment-là, il n'y a pas le marché. Le marché là, c'est pas bon.
J'ai commencé la vente de bouillies et des galettes avant le mois du jeûne et je continuerai la vente même après. Mais franchement, le prix des produits est extrêmement cher. Le mil est cher, l'huile est chère également. Il y a une très grande différence entre l'année dernière et celle-ci. On souhaite vraiment que les prix baissent. Sinon, il y a un peu de marché, mais les bénéfices sont très maigres. J'ai commencé la vente de jus avant le début du jeûne et je continuerai même après. Le marché est vraiment lent cette année. Les gens n'ont plus assez d'argent et ce n'est la faute à personne. À cela s'ajoute la cherté du prix des produits. L'année passée, on achetait le sac de sucre à 20 000 francs et on vendait le bidon à 300 francs CFA. Et cette année, le prix est monté à 31 000 francs et on est obligé de faire le bidon à 500 francs CFA pour s'en sortir. Le marché sur cette avenue soulage les fidèles musulmans qui ne se trompent pas de chemin.
C'est notre coin ici seulement. Cette vendeuse nous soulage vraiment. Sa bouillie est vraiment bonne et elle est propre aussi. Raison pour laquelle on vient acheter. Si c'était mal fait, ce n'est pas sûr qu'on vienne ici.
Moi, personnellement, bon, je n'ai pas l'habitude de payer ici. Et puisque ça dépend des heures. Et que moi, je suis un gars, je tourne trop. Parfois, l'heure de la rue, tu peux me croiser. Puis, je suis en ville. Là, je fais ça en ville. Voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, je rentre tôt. Quoi. C'est pour cela, voilà, j'ai croisé le coin et les gens étaient arrêté un peu nombreux, donc je me suis dit que c'est un bon coin.
Ce mois de Ramadan, débutant le 23 mars pour finir à mi-avril, demeure un mois de pénitence, de soumission et de bénédiction pour les croyants, mais également un mois d'affaires pour ces femmes commerçantes qui font de cette activité leur principale source de revenus.
C'est également le temps de carême et aujourd'hui c'est vendredi saint pour les chrétiens catholiques qui vivent le deuxième jour du Triduum Pascal. Le vendredi saint, l'on célèbre la passion et la mort de Jésus-Christ. Soména Traoré et Judith Traoré.
Les premières célébrations du Vendredi Saint remontent au 7e siècle. Le Vendredi Saint, il n'y a pas une célébration liturgique proprement dite, mais c'est plutôt une célébration de la passion du Christ. Père Gaëtan Kabouré, curé de la paroisse Saint-Camille de Dagmoin.
Le Vendredi Saint, ce qui est culminant, c'est la méditation du chemin de croix et la célébration de la Passion le soir. On fait mémoire, on médite et on accueille les mérites de cette Passion, de cette mort, les mérites de l'eau et du sang coulé du côté du Christ les mérites de sa mort pour que nous ne connaissions plus cette mort.
La célébration de la passion du Christ se passe dans le silence. On ne joue pas d'instruments de musique au cours de cette célébration.
C'est pas le temps de réjouissance, c'est pas le temps de bruit, c'est le temps du silence, du recueillement et de la méditation. Voilà pourquoi on invite à ce que les coulisses puissent nous amener à cette méditation de la passion et de la mort.
La célébration de la passion du Christ présente une particularité. En effet, elle débute dans le silence et c'est également dans le silence qu'elle s'achève et sans bénédiction d'où l'assemblée.
Le prêtre va venir dans la prosternation, dans le silence pour implorer la miséricorde. Celui qui est mort sur la croix, c'est cela que nous célébrons. Quand on va finir la célébration de la passion également, puisque nous sommes conduits à la mort de Jésus-Christ, donc à la tombe, toute la journée du samedi, donc le chrétien se recueille devant la tombe avec Marie. Il n'y a plus de bénédiction, il est mort. Nous voulons nous recueillir pour cela.
Selon les Saintes Écritures, après son dernier repas avec ses disciples, Jésus est trahi par un des siens, Judas Iscariote, pour 30 pièces d'argent. Le Fils de Dieu est arrêté par un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens dans ce jardin où il s'était rendu avec ses disciples pour prier. Conduit chez Pilate, il est jugé, dépouillé de ses vêtements, flagellé, une couronne d'épines lui est posée sur sa tête et chargé de sa croix pour être crucifié à Golgotha avec deux autres bandits, Jésus au milieu, sous le regard impuissant de Marie sa mère et de certains de ses disciples. Et tout comme le dimanche des rameaux, le vendredi saint, la couleur liturgique est le rouge.
La revue de presse.
La revue de presse de ce vendredi porte la signature de Brigitte Yoda.
Dans les parutions de ce vendredi, le quotidien affiche sa mélancolie face à la pénurie de timbres fiscaux à Ouagadougou et compatit à la souffrance de ses usagers qui ont des documents à faire légaliser et ne savent plus à quel sens se vouer. Une situation qui n'honore pas la Direction générale des impôts DGI, encore moins le Burkina, s'indigne le quotidien qui s'interroge. Ne peut-on pas imprimer les timbres sur place tout en prenant toutes les dispositions nécessaires pour éviter la fraude et la contrefaçon? Quoi qu'il en soit et quelle que soit la formule qui sera retenue, il faut évidemment mettre un terme à cette situation de rupture de timbres fiscaux et dont les conséquences sont sans commune mesure sur le citoyen. Il y va aussi de la souveraineté du pays, affirme le journal. Pillage et accaparement des terres, même réservées à l'agriculture, non-respect des attributions qui sont les leurs, ce sont là quelques pratiques qui sont aujourd'hui reprochées aux promoteurs immobiliers, indexe l'Express du Faso. Ce qui fait dire au journal Bobolais que l'État préfère reprendre la paternité des terres pour mieux contrôler leur gestion que d'avoir à gérer des conflits interminables plus tard. Au Mali, l'on craint une montée des tensions entre Bamako et les groupes armés terroristes dans la ville de Kidal. Le survol d'un aéronef des FAMA a été accueilli par des tirs de sommation de la part des rebelles qui y voient ni plus ni moins qu'une tentative d'intimidation lance aujourd'hui au Faso. Est-ce vraiment une déclaration de guerre de la part de Bamako, dotée à présent de l'artillerie adéquate achetée à la Russie et fort du soutien de Wagner? Questionne mon confrère. Est-ce une mesure d'intimidation, ajoute le pays, qualifiant de bien malin, qui saura répondre à cette question? En tout cas, tous les éléments semblent aujourd'hui rassemblés pour un nouveau départ de feu dans un pays déjà confronté à l'hydre terroriste, déplore l'observateur Palga. Si le journal des 1200 logements et le doyen des quotidiens espèrent que la sagesse sera la chose la mieux partagée entre les deux parties afin d'éviter une nouvelle déflagration, aujourd'hui au Faso assure que c'est aux autorités de la transition de trouver l'approche et les canaux nécessaires pour faire taire les armes, apaiser les cœurs, conditions sans lesquelles rien n'est possible, a-t-il conclu.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Et l'invité de la rédaction est le journaliste et analyste politique sénégalais Mam Gor Ngom. Avec lui, nous parlons de l'actualité politique au Sénégal. Pour le journaliste et analyste, il appartient au président Macky Sall de trancher s'il est candidat ou non à un troisième mandat. en 2024. Il répond aux questions d'Abdoul Fattah Tiamtoré.
Mamgor Ngom, bonjour.
Bonjour.
L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été condamné il y a une semaine à 2 mois de prison avec sursis et une forte amende dans un dossier qui l'opposait au ministre du Tourisme. Comment ce verdict a été accueilli dans les deux camps, celui de l'opposant et celui du pouvoir, naturellement?
C'est un verdict qui a été accueilli de manière sobre dans les deux camps, même si on sentait un peu de soulagement du côté de Ousmane Sonko, parce qu'on redoutait une disqualification pour la présidentielle de 2024. Ce n'est pas le cas, mais du côté de ses avocats, ils ont aussi ce qu'on pourrait appeler le triomphe modeste, parce que ce n'est pas encore terminé. L'autre camp qui n'est pas aussi satisfait, c'est-à-dire le ministre Mambaigna et le procureur de la République qui ont fait appel contre poursuivre le procès en deuxième instance. Et je pense que pour le moment, on ne peut pas dire que les choses ont pris fin. Pour l'opinion sénégalaise, c'est un peu de soulagement. Beaucoup parlent de verdict d'apaisement parce que qu'on redoutait de la violence. Tout était fin prêt pour cette violence parce qu'il y avait les écoles ont été fermées, les banques aussi. Il y avait une ville morte à Dakar. Tout le monde, beaucoup de Sénégalais redoutaient des violences si on disqualifiait le leader de PASTEF, qui à chaque fois aussi fait un appel à la résistance, demande à ses partisans de se mobiliser parce que à ses yeux, le pouvoir n'a qu'une seule obsession, c'est de faire de telle sorte qu'il ne se présente pas à la présidentielle de 2024.
C'est bien l'enjeu principal ici, l'élection de 2024. D'aucuns s'attendent justement à une clarification de Macky Sall sur sa participation à lui au prochain scrutin. Comment analysez-vous ce suspense-là entretenu par le chef de l'État?
C'est assez pesant, même du côté de ses partisans, même si certains d'entre eux disent clairement que Macky Sall doit être candidat à la présidentielle de 2024. Ils étaient nombreux à dire que cette candidature était impossible. Parce que bon, il faut le dire aussi, la constitution est assez claire. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Mais aujourd'hui, Macky Sall, il avait dit, il n'a pas encore dit qu'il va se présenter, mais il n'a pas encore dit non. Et tout converge vers une candidature. Parce que, il y a des actes qui sont posés. Il y a certains qui disaient qu'ils ne pourraient pas être candidats, ont été exclus définitivement du parti, ou bien du gouvernement, ou bien des stations qu'ils occupaient. Donc aujourd'hui, ce suspense est très pesant dans l'opinion et dans l'espace public. On attend des opposants, et beaucoup d'opposants, et même la société civile est en train de s'organiser. Et on va vers des empoignades, de chaudes empoignades, si je peux m'exprimer ainsi, s'il déclare sa candidature. Peut-être c'est à cause de cela qu'il essaie de retarder les choses pour peut-être attendre le dernier moment pour dire qu'il est candidat.
Pendant ce temps, il dit rester ouvert au dialogue. C'est ce qu'il a dit en tout cas dans son discours à la Nation à l'occasion de la fête d'indépendance. Est-ce que cela se traduit dans les actes du chef de l'État?
Pour le moment, il a parlé de dialogue. Il a parlé vaguement de dialogue, ouvert au dialogue. Je pense que ça, c'est des mots. Comment dialoguer et sur quoi dialoguer? Est-ce qu'il y a lieu de dialoguer? Parce que le pays marche, les institutions marchent, les opposants sont là, ils sont en train de s'opposer. Je pense que c'est tout à fait normal en démocratie. La présidentielle, c'est dans quelques mois. Les choses sont en train d'être faites. Il y a les inscriptions sur les listes. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu de dialoguer dans ce cas précis.
Il faudrait tout simplement qu'il tranche.
Oui, il faudrait qu'il tranche, qu'il dise qu'il est candidat ou bien qu'il n'est pas candidat. S'il déclare sa candidature, c'est sûr qu'il y aura grabuge. S'il n'est pas candidat, peut-être ça va être aussi une surprise du côté du pouvoir parce qu'ils n'ont pas réellement quelqu'un, ils n'ont pas préparé quelqu'un pour être candidat jusqu'ici. Bon, il y a même du côté de ses alliés comme Idrissa Seck qui a déclaré de manière implicite qu'il serait candidat à la future présidentielle. Idrissa Seck, c'est le président du Conseil économique, social et environnemental et qui était arrivé deuxième lors de la présidentielle dernière. Aujourd'hui, il a déclaré sa candidature. Son parti bouge. Il y a eu beaucoup de bruit autour de lui. Mais le président, jusqu'à présent, il n'a pas encore déclaré sa candidature. Et qu'il est conscient que s'il déclare sa candidature, ça va encore créer beaucoup de bruit, comme la candidature de Ouad en 2011-2012.
Et du coup, que nous réserve ces prochaines semaines au Sénégal? Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais comment vous voyez ces semaines-là qui viennent?
Vous le dites, c'est difficile de dire ce que sera demain. Mais on sent, tant qu'observateur, qu'il y a beaucoup de peur, qu'il y a de l'anxiété. Nous sommes dans un moment vraiment anxiogène et que tout peut arriver. Mais tout dépend du président de la République, Macky Sall, qui sait que la troisième candidature est rejetée par une bonne partie de l'opinion, non seulement l'opposition, certains de ses partisans, mais la société civile aussi. Et on oublie certains, c'est cette majorité silencieuse qui reste à la maison, qui était le 23 juin, qui était présente à l'Assemblée nationale, qui avait dit non à Ouad, à la troisième candidature de Ouad, et qui avait sanctionné Ouad en 2012 face à Macky Sall. Donc tout peut arriver, et je pense qu'on peut avoir le meilleur, on peut avoir aussi le pire.
Merci, Mam Gor Ngom.
Merci.
Et on s'arrête là pour cette session d'information. Merci à Adama Konate qui a assuré la mise en onde. Vous restez à l'écoute des programmes de Radio Omega. L'info continue.
Radio Omega, l'info en direct.